Vous écoutez
RMC.
RMC.
On va continuer à faire semblant match après match. On va recommencer l'année prochaine à trouver. Je pense, Gilbert, faut que tu commences à trouver un petit puceau de 20 ans qui aime le foot allemand, parce qu'au bout d'un moment, ça gave pour les prochaines années.
La Saint-Parfait, c'est le 18 avril.
Absolument, absolument, Daniel.
Absolument, c'est je suis né dans la nuit de la Saint-Parfait.
Non, en tout cas, sur Direct Studio, tu fais un carton.
C'est quoi Direct Studio?
C'est le 13 avril.
C'est quoi?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, l'after continue jusqu'à minuit, l'after l'émission qui dit tout ce que les mondes du football pensent tout bas. Lionel Charbonnier est là, salut Lionel.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Bonsoir les amis, mais Lionel, c'est pas l'homme des soirées Ligue des Champions?
Bah, il y a quand même Ligue des Champions ce soir.
Et ce soir, ça...
Bah, elle est belle là, cette soirée.
Ouais,
il y a des beaux arrêts de gardien, t'as vu?
Mais toi, tu sens que les résultats sont indécis quand il y a là ce soir.
Mais, honnêtement, limite, tu sais limite, quoi? Limite, je croyais que Liverpool, je pensais que Liverpool allait faire quoi? Plus concrétiser que ce qu'ils ont fait là.
Ah ouais?
Ouais.
Méfiance quand même, hein. Imagine, ils marquent deux buts en début de deuxième mi-temps. Non. Alors bon, on va parler évidemment Ligue des Champions tout à l'heure. Les drôles de l'âme seront là à 23h pour analyser le plateau des cartes finales.
On va enregistrer les résultats.
On va aller prendre les nouvelles des matchs dans quelques instants. Et puis l'actu du jour dans Génération After, on a longuement parlé de la liste de Deschamps demain. On va quand même profiter de la présence de Lionel pour que tu nous donnes toi ton trio de gardiens. Maintenant que Loris et Mandanda ne sont plus là, t'as quand même une expertise qui nous intéresse.
De la liste. Il y a des gardiens, parce que c'est quand même le poste le moins important.
Il y a une autre question, c'est les capitales.
Tu as mis deux secondes de réaction. Je lui ai dit, attends, je vais tout de suite un peu le chauffer. Parce que ce choc, il est arrivé, il dormait, il était pas bien.
Tu l'as chauffé avant?
Bon, non, il est naturel. Il est dans son milieu naturel.
Non, là, je fais exprès. Je voulais chauffer un peu Lionel.
La liste évidemment en question, le capitana. Et Daniel, toi tu veux aussi parler des décisions du jour de l'UEFA. Ce sera dans un quart d'heure.
Mais moi je ne comprends pas que ça n'intéresse pas les gens. Il n'y a pas de réaction, les gens ne se rendent pas compte, ils disent c'est pas grave. Mais d'accord, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est rien, c'est pas...
Ils s'en rendront compte le jour où ces deux équipes-là vont se rencontrer.
Je comprends pas que ça ne suscite pas plus de tollé, que les gens ne comprennent pas les virages qu'on est en train de nous faire prendre dans le football. C'est bizarre, c'est très bizarre.
Et puis, à 23h30, les gars.
Chez les puceaux, c'est trop tard.
Je peux faire un sommaire correct pour que les gens comprennent ce qu'on va faire?
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas massacré un sommaire.
Ah, ben là, il est bien massacré.
Je pense que c'est de temps en temps, c'est la tradition.
Donc, je vais quand même le refaire dans l'ordre. Ligue des Champions, équipe de France, UEFA et espionnage. Et oui, à 23h30, tout à l'heure, on ira en Suisse pour retrouver notre ami Stéphane Rian, qui suit les affaires de la FIFA de très près, et qui nous racontera comment le Qatar a espionné le procureur qui s'est intéressé de près à l'attribution du Mondial de décembre dernier. Affaire de football et d'espionnage, donc, tout à l'heure, dans l'after. Mais d'abord les matchs, on est encore à la mi-temps, hein. Ça va bientôt reprendre sur les deux pelouses où l'on joue ce soir. Alors évidemment, il y aurait pu y avoir du suspense, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, notamment entre le Real et Liverpool. Jean Essayer, bonsoir.
Bonsoir, 0-0 à la pause, 0-0 en début de deuxième période. La grosse occasion est pour le Real avec la remise de la tête de Rudiger à la 14e minute et Vinicius qui voit Alisson réaliser un parfait arrêt de gardien de handball. Il y a eu 2-3 situations aussi pour Liverpool, la frappe de Camavinga sur la transversale, mais toujours pas de but et surtout 3 à remonter pour Liverpool, 5-2 battu à domicile, on le rappelle, lors du match aller. Et pour l'instant, même si il y a l'ambition d'y croire pour Jürgen Klopp, en tout cas il l'a dit en conférence de presse hier, une victoire envisageable, oui, une qualif n'est pas à exclure, pour l'instant ils partent de loin. Non, je suis en cabine, tranquillement installé.
Ah, parce que sinon, pour un match comme ça, je dis quel est l'intérêt, à part se faire un bon resto à midi, j'allais te demander quel
resto
tu t'étais fait à Madrid.
Écoute, je suis en train de partager
Madrid,
ton point de vue, je vais y réfléchir pour les quarts de finale, promis.
Concernant les arrêts de gardien, il y a cet arrêt effectivement un peu du bras.
Alisson,
il va en chercher une dans la lucarne, Lionel.
Ouais,
c'est magnifique, je crois. Non, les deux gardiens, même Courtois.
On aurait dit Fabien Cool avec Auxerre.
Ouais, ça y arrive.
Vous allez faire un sort de gardien de but alors.
Non, mais cet arrêt-là, il est magnifique.
Même Courtois a fait un très bel arrêt. Je ne suis pas sûr qu'elle soit cadrée, mais non, les gardiens étaient très bons, je trouve, en première mi-temps.
Alors, je rappelle quand même que Fred Hermel, avant le match, nous a dit s'il y a 0-0, j'arrête tout. Donc là, il commence un peu, il a peut-être
il
un peu flippé.
Quoi, en fait
il arrête de parler
arrête
foot.
Quoi, l'alcool, la bouffe,
non, de parler football.
Les femmes. Le foot.
Oui.
Non, je crois qu'il arrête. arrête les femmes parce que Polo cherche des puceaux. Et...
Vous avez arrêté maintenant.
Vous avez... Ah, il nous a scotché Polo hier.
Allez, l'autre match a repris. Naples mène 1-0 face à Francfort. Aurélien Tiersain.
Oui, 46e minute, hein, ça repartit depuis une minute. Alors si vous me trouvez une stat en faveur de Francfort pour maintenir un petit peu d'espoir, je suis preneur parce qu'il y a tout qui va pour les Italiens qui n'ont plus perdu à domicile en Ligue des Champions depuis 2017. Les Allemands ne gagnent plus à l'extérieur depuis le mois de novembre. Ils sont un petit peu en difficulté en ce moment, 6e de Bundesliga. Puis les Napolitains, bon, c'est
on va
toujours
boire un
aussi...
café alors.
Hein. Ouais, c'est possible parce que derrière Kim Minje, le Stade Rennais a bien fait de pousser pour le recruter, mais il a préféré Naples. Le Sud-Coréen est vraiment très très solide avec Ramani.
Il a raison en l'occurrence, non?
En l'occurrence, ouais. club supérieur, oseille en plus. Si tu veux, là, Aurélien, ouais. Ça se discute pas trop.
Bah, oui, exactement. Quand on voit ce qui se passe cette saison, il a bien fait d'aller signer au Napoli. Et puis devant, il y a Kvaratskhelia qui, dès qu'il accélère, il met la misère à tout le monde. Et Victor Osimhen, il nous a fait un décollage 2 mètres au-dessus du sol quasiment.
Il a mis les abdos sèches, là. Hein.
Ah,
les
abdos sèches, bravo. Hein.
Pour mettre une tête dans la lucarne de Kevin Trapp.
Lui dépose aussi. Hein.
Vous avez pas remarqué aussi, Osimhen, il va hyper vite pour enlever son masque.
Il a enlevé son masque juste après le but.
Il va super vite. T'as à peine le temps de le voir marquer un but que déjà il a plus le masque.
Mais est-ce qu'il en a encore besoin d'ailleurs de son masque? Tu sais, il y a plein de joueurs continuent de jouer avec ça alors que.
Ah, le plâtre de Johnny Ecker.
Voilà, par exemple. Ou de Blaiac.
Johnny Ecker, fallait s'en souvenir.
T'as des supporters qui portent le masque de
2000.
D'Osimhen, c'est vrai, ouais.
Bon,
du coup, ça fait 1-0 pour le Napoli, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Osimhen, ça va être dur de le garder pour Naples cet été quand même. Je pense que c'est un attaquant qui va prendre une grosse cote. Parce que,
22 buts,
très bons neufs. Ça
lui en plus veut aller en Angleterre. Il a déjà dit qu'il rêvait d'aller.
Il a un profil Première Ligue. Les neufs, que je le disais, bon, il y a Haaland dont on a parlé hier soir. Osimhen en numéro 9, il doit pas être loin d'un top 3 d'Europe en ce moment. Hein. Il est vraiment très fort.
D'accord.
Il est très foot moderne, pressing partout, il va vite.
Tout à l'heure, on aura les drôles de dames pour revenir sur ces matchs et parler donc du plateau des quarts de finale. Et évidemment, vous ne raterez rien s'il y a un but d'ici à la fin des rencontres. Lionel, tout à l'heure dans Génération After, avant qu'on arrive, il y avait le débat sur les gardiens de but en équipe de France. Ouais. Loris et Mandanda ne sont plus là. Donc là, il y avait les différents avis, les infos de Jeannot, de Roland, de Walid.
Je vais écouter ce qu'ils ont dit, donc ça sera vraiment là, mon avis.
Tu vas pouvoir rester tout à fait frais.
Ouais,
toi qui as été gardien d'équipe de France, quand même, tu ferais quoi si tu étais le décideur?
Numéro 1 aujourd'hui, sans conteste, Maignan, okay. Tout simplement.
C'est la tendance, hein.
Je pense que ça va se passer comme ça. Après Maignan, j'ai un petit souci. Je pense que si j'étais vraiment sélectionneur et que j'avais pris Areola en 3, je continuerais avec Areola pour au moins un ou deux matchs.
Et pourquoi? En deux, en
trois? Tout simplement parce que tu peux pas virer un mec qui a été 3 et qui a été exemplaire tout le temps.
Il vient pour entraîner les gardiens. Il vient pour quoi en fait?
Non.
En club, il joue même plus. C'est un gardien qui a disparu.
C'est le souci. Si j'avais été sélectionneur, maintenant, si tu me demandes à moi, mon avis extérieur, pour une logique de groupe, c'est-à-dire que quand t'es remplaçant,
si le groupe il a changé, Lionel. Là, c'est un nouveau départ. Si tu me dis,
c'est un nouveau départ, mais justement, si t'étais là, c'était parce que tu devais suppléer le mec qui théoriquement aurait pu se blesser ou aurait pu ne pas être là.
Mais lui, donc, il est troisième.
Il est troisième, donc il passerait deuxième vu qu'il en manque un.
Il va passer deux. Ça veut dire que tu peux jouer. Comment veux-tu qu'il joue puisqu'il ne joue pas?
Il va passer deux.
Et qu'en plus, quand il joue, il est pas bon.
Tu verras qu'il va passer deux.
Non mais. Okay.
C'est une logique de groupe, c'est une logique de management.
Et trois.
Je comprends pas pourquoi vous essayez de me laisser.
Non. Alors c'est pas mon choix.
Moi je te donnais ton choix là.
Mon choix personnel. Ouais. Vu que je suis pas sélectionneur, je mets en un Maignan, en deux. J'amènerai Samba, Brice Samba. Je commencerai à le sélectionner.
Tu le mettrais en deux?
Je le testerai, savoir comment il se comporte dans un
et
groupe.
En 3
et en trois, je mettrai Lafond.
Très bien. Donc toi, t'enlèves Areola, mais tu estimes que
oui,
Deschamps
parce que
va le garder
pour les raisons
dans
que
la logique
disait, justement Daniel. Mais ça va pas. Après, là, je parle pas en management.
Hein. Jeannot a bossé le dossier, il veut rajouter un élément, je crois.
Non, c'était simplement sur le fait que Areola, il joue la Coupe d'Europe avec West Ham. Il vient d'enchaîner trois matchs puisque Fabianski s'est blessé. Il a joué les coupes nationales. Donc, quand Daniel dit joue pas, il joue. Sauf qu'aujourd'hui, il est champion du monde 2018.
Il n'est pas titulaire normalement. L'équipe de France, c'est des titulaires.
Non, mais
il fait partie
3.
Du turnover du.
Là, on parle du numéro 2 voire 3. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir s'ils prennent Samba. Samba sera numéro 2, Areola sera numéro 3. S'ils ne prennent pas Samba, à ce moment-là, Areola sera numéro 2 et Lafont sera numéro 3. C'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est vrai que Samba a séduit Franck Rabiot. C'est les infos qu'on a, nous, Lionel. Ouais. Il a séduit Franck Rabiot. Il y a simplement le fait de savoir comment il va s'intégrer dans le groupe. Est-ce qu'il va accepter d'être numéro 2, voire même peut-être numéro 3? Parce qu'il y a le cas Ruffier, souvenez-vous ce qui s'était passé en disant oui, mais moi, reviens en équipe de France, mais je veux être numéro 1. Et du coup, on n'a plus revu Ruffier. Donc ça, il veut l'éviter, Didier Deschamps, et je pense que la réflexion, elle est à ce niveau-là. Mais Samba, aujourd'hui, au regard de ses performances avec Lens, mérite cette place en équipe de France.
Sur les qualités de gardien même, est-ce que Samba est au-dessus de Lafont, Lionel? Moi, je pense que oui.
Oui, oui, oui. Oui, je pense. Je le vois plus serein. Je le vois beaucoup plus commander la défense. Et ça, c'est très important. Un gardien qui arrête les buts avec la voix.
On sent qu'il a du charisme.
Oui, pour moi, il est rassurant. Alors, attention, Lafont aussi, mais Lafont, je le trouve plus jeune dans son jeu, moins abouti. Non, Samba me plaît beaucoup. Je pense que Samba, lorsque je le vois évoluer, il est beaucoup plus proche de Maignan que Lafont. Samba.
Bon, on verra ça demain. On va parler du capital dans quelques instants, mais d'abord un point sur les matchs Real-Liverpool, Jeannot.
On n'était pas très loin de l'ouverture du score.
But de Osimhen.
Real Madrid est toujours 0-0 et 3 buts d'écart.
Et Naples.
Osimhen, ça fait 2-0 pour le Napoli à la 53e minute. Il y avait déjà plus beaucoup de suspense. Il y en a plus du tout. Ça fait 4-0, mais il s'est fait mal effectivement sur ce contact dans la surface de réparation. Il était vraiment à quelques centimètres de la ligne de but. Alors j'ai pas bien vu à cause de. Ouais, c'est au poignet finalement. Il a l'air de se plaindre au poignet. C'est avec Kevin Trapp ou un défenseur sur la ligne de but qui s'est fait mal. C'est sur un centre de Di Lorenzo. Hein, il s'est fait marcher dessus. Voilà. Il s'est fait marché dessus par Tuta, le défenseur brésilien juste derrière lui qui
sur la main.
Oui, ah là c'est assez vilain. Ouais, ça lui retourne le poignet dans le mauvais sens. C'est peut-être c'est un coup et une torsion du poignet en retombant. Donc ça fait 2-0 pour le Napoli et le suspense est mort dans cette partie. Il reste 40 minutes à jouer.
À tout à l'heure, dans un instant, quel capitaine pour les Bleus, et ensuite on parlera de l'UEFA et les décisions du jour de Seferin, qui lui ne voit plus de problème à ce que deux équipes appartenant à la même personne jouent ensemble en Coupe d'Europe. Bon, assez étonnant, on vous expliquera pourquoi cette décision. Tout à l'heure dans l'After, à tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Brisbois.
Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo également. Il est 22h14 avant de parler des décisions du jour de l'UEFA, avant de débattre du plateau des quarts de finale de la Ligue des Champions tout à l'heure à 23h. Et avant une affaire d'espionnage étonnante, vous allez voir en Suisse, on va parler du capitanat de l'équipe de France juste après un tour des directs, car on joue ce soir, même si pour l'instant il y a zéro suspense en Ligue des Champions. Real-Liverpool, pour l'instant le Real est largement qualifié, Jeannot.
Allez, 5-2 au match aller du côté de Liverpool et 0-0 sur le match retour. Grosse occasion pour Valverde à la 53e minute, le face-à-face qu'il manque face à Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Et puis sur l'action qui suit, Salah donne un mauvais ballon à Nunez qui ne peut pas ajuster sa frappe sur Courtois. Il y en aura eu quand même pour l'instant, en tout cas il y en a quelques-unes, des occasions manquées pour Liverpool pour essayer d'y croire, essayer d'entretenir un éventuel espoir.
Et puis Naples, on peut le dire, est déjà qualifié à une demi-heure de la fin, Aurélien, face à Francfort.
Ouais, 57e minute, 2-0, doublé de Victor Osimhen qui s'était fait marcher sur le poignet lors du deuxième but. Il est de retour, alors désormais il a le masque sur le nez et le bandage autour du
poignet.
Du poignet, ouais, ça va pour Osimhen qui ne tremble pas, mais d'un iota face à cette équipe de Francfort. Il manque Kolo Muani et Lindstrom du côté de l'attaque des Allemands. Bon, je dis ça et ça va peut-être aller au bout là, avec le centre de Boré, la frappe de Kamada. Voilà, il suffit que je le dise pour qu'il y ait la première occasion ballon de Francfort, le japonais qui se jette, mais ça arrive pile dans les bras d'Alex Meret. 57 minutes de jeu, donc 2-0 pour le Napoli, qui est largement qualifié. 4 buts d'avance sur les deux matchs. Ouais, puis il y avait un jeu de 2 mètres.
Avant de débattre du futur capitana des Bleus, les infos de Jeannot qui suit l'équipe de France.
Oui, avec Fabrice Hawkins sur le capitana, ça fait un petit moment qu'on essaie de percer le rideau de fer, et pour l'instant, il y a pas grand chose qui remonte, si ce n'est qu'il y a deux joueurs qui ressortent du lot, c'est Antoine Griezmann et Kylian Mbappé dans la réflexion. Après, on suppose que la question lui sera posée demain à Didier Deschamps, mais qu'il n'y répondra pas avant le début du rassemblement, avant d'avoir évoqué cela avec les deux joueurs, même s'il a très certainement déjà parlé à l'un et à l'autre. 13 capitaines en tout depuis l'ère des Champs 2012. Le dernier, c'était justement Antoine Griezmann. Pour Kylian Mbappé, pour son entourage, ça paraît tout à fait naturel, mais est-ce que c'est pas l'exposer encore un peu plus et l'amener à se présenter très souvent devant les médias, peut-être trop souvent, et donc c'est pour cela qu'il y a une vraie réflexion par rapport notamment au fait de donner le brassard de capitaine à Antoine Griezmann.
Les gars, vous prendriez qui ?
Capitaine, c'est pas forcément le meilleur joueur. Leader, c'est celui qui fédère, qui fait peut-être pas une unanimité totale, mais en tout cas qui autour de lui rassemble le plus de gens qui vont penser que c'est une bonne chose. Pendant très longtemps, on disait c'est l'ancien. C'est pas forcément le plus ancien.
Qui est aussi un relais avec l'entraîneur.
Rappelons quand même en voilà, bien sûr, ça c'est un des autres éléments. C'est effectivement un lien de confiance avec l'entraîneur qui doit être sans faille. Et à ce titre-là, Griezmann, qui est le fils spirituel de Deschamps, tient la corde.
Je pense que cet élément-là est très important pour
rappelons un peu dans l'histoire de l'équipe de France qui a pu se passer à la fin des années 70, début des années 80, quand Marius Trésor est le capitaine de l'équipe de France. Il joue encore quand, malgré tout, on décide que c'est Platini qui va devenir le capitaine. Parce que Platini est tellement au-dessus et fédère autour de lui tellement qu'il n'y a pas de mal à le donner et au meilleur joueur et à celui qui tire tout le monde. Et Trésor le vivra très bien et l'équipe de France évoluera de cette façon jusqu'à ce que Trésor ne soit plus en équipe de France et que Platini continue à l'être pendant des années. Les autres choses marquantes, toujours avec ce rapport entre le joueur emblématique et le capitaine, bon, évidemment, c'était Deschamps avec Jacquet, parce que Deschamps était réellement le relais d'Aimé Jacquet, et Zidane a attendu que d'abord Deschamps s'en aille, puis De Sailly, avant de prendre le brassard. Il est capitaine à la fin, Zidane, mais il ne l'a pas été tout au long de sa carrière. Donc, le raisonnement qui consisterait à dire maintenant... C'est logique que ce soit Mbappé, moi je l'entends, parce que il a une allure de leader, mais est-ce que c'est un leader technique? Est-ce qu'il a un profil « je sauve l'équipe » comme il l'a fait à la Coupe du Monde, « je suis la star de l'équipe » ou « je suis aussi celui qui parle dans le vestiaire, qui peut être le relais de l'entraîneur ?» Sachant qu'il a un côté quand même individualiste qui est fort, ne serait-ce que sur l'histoire de la négo des droits.
Avec le président...
Mais néanmoins, cette histoire de négo des droits...
Ça le pose un peu en leader quand même. Hein.
Et c'est ce que j'allais dire. Oui. Si tout le monde le suit et tout le monde lui dit « bravo Kylian, ce que tu fais, c'est exactement ce que à l'époque Platini, quand il négociait pour tout le monde. Il faisait croquer tout le monde. Tu peux demander aux mecs de l'époque, ouais, ils te disent, il faisait croquer tout le monde. Si Kylian fait ça et qu'en fait c'est...
Il avait même pris Olivier Rouillet dans les pubs qui tournaient.
Ouais, il faisait croquer tout le monde dans les trucs et tout. Si derrière Mbappé, il y a unanimité sur l'idée qu'il faut renégocier la façon dont on va avoir une relation avec les sponsors et tout. Alors pourquoi pas, ça peut le poser en leader assurément. Si ça doit froisser Griezmann, qui continue, hein, il a pas dit que lui il arrêtait après la Coupe du Monde malgré ses nombreuses aventures avec les Bleus. Il aurait pu arrêter Griezmann, mais il est encore là. En plus, il est redevenu bon avec l'Atlético, donc il est là. Et Griezmann, il a avec lui pas mal de joueurs dont il est ami depuis longtemps. C'est un leader. Il y aurait quelque chose de naturel à ce que ce soit lui. Donc je pense que ça se joue entre les deux. Deschamps risque quand même d'aller vers et le plus ancien et le gars qui est un petit peu son chouchou, Griezmann, et que Mbappé doivent attendre encore. Mbappé aurait peut-être plus vocation aujourd'hui à l'être au PSG que à l'être en équipe de France. Voilà, je Je pense que oui, il y a quelque chose d'un peu normal.
Je pense pas qu'il y a de troisième profil qui suit l'équipe de France tout le temps.
Doit avoir un avis évidemment là-dessus. J'ai envie de croire qu'il va penser à peu près la même chose sur Griezmann et les relations qu'il a avec Deschamps.
La seule chose qui pourrait jouer contre Kylian, et je crois que Jeannot en a parlé, ça serait au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles à un moment donné.
Mais lui, ça lui pose pas de problème.
Si c'est un argument pour Deschamps, excuse-moi, c'est un mauvais argument. Au contraire, on adore l'entendre.
Il faut que ce soit une communication maîtrisée. Griezmann, il va apprendre la langue de bois. Il va apprendre la langue de bois de Deschamps. Alors que Mbappé, il est un peu plus libre de ce côté-là.
Il est là, le souci. Le souci, il est là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une communication maîtrisée par l'entraîneur. Et que le joueur veuille bien le faire. Alors peut-être que Kylian va le faire. Mais je le vois pas dans ce rôle-là.
Pénalty pour Naples, Aurélien. Naples-Francfort.
Triplé pour. Ça peut tourner. Non, ça sera Zielinski, le Polonais, sur qui a été commise la faute d'ailleurs. C'est Djibril Sow, le milieu récupérateur de Francfort, qui a balayé Piotr Zielinski, qui était en train de s'amuser dans la surface. Il essayait de passer le ballon à son capitaine Di Lorenzo. 2-0 pour le Napoli face à Francfort. Le Napoli largement qualifié pour le moment. 27 minutes encore dans le temps réglementaire. Et le Polonais qui peut marquer, pourquoi pas, son quatrième but, mine de rien, dans cette campagne de Ligue des Champions, devant le stade Diego Armando Maradona. Zielinski au milieu en force, ça fait 3-0 pour le Napoli qui s'était déjà imposé 2-0 à l'aller, qui avait raté un pénalty par Kvaratskhelia. Ils l'ont laissé aux Polonais pour ce soir, et Francfort est surclassé par le leader de Serie A.
À tout à l'heure, Kevin est là au 32-16 pour donner son avis sur le Capitana. Kevin, bonsoir.
Avec vous.
Salut Kevin, ça va ?
Salut Kevin.
Bah ouais, ça va, ça roule.
Tu dis quoi, toi ? Griezmann ou Mbappé ?
Bah moi j'aurais dit Brice Samba à la base, bon, parce que je suis supporter du RC Lens.
Déjà, faudrait que toi qui dis soit. Hein.
Mais non, blague à part, non, en vrai, moi j'aimerais bien que ce soit Mbappé. Parce que, en fait, Griezmann c'est un leader technique. Alors moi je l'adore, hein. Griezmann, franchement c'est un super joueur technique, vraiment. Vous avez eu Platini il n'y a pas longtemps en RMC, je pense que. Ouais. Je pense qu'en équipe de France, c'est à peu près le joueur qui s'en rapproche le plus. Mais après, le truc, c'est que je trouve que c'est un joueur qui est super, mais qui est un peu. C'est le gars sympa du groupe, en fait. Pour moi, il n'a pas la présence d'esprit du capitaine, c'est-à-dire le mec qui peut gueuler sur les gars. Je pense que pour moi, ce serait Mbappé qui devrait le prendre, parce que.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. L'aura d'Mbappé aujourd'hui est telle qu'on a un tweet, il fragilise toute la fédération.
Voilà. Donc, c'est quand même. Il suffit de voir la déclaration qu'il a eue avec le PSG et compagnie. Bon, alors, c'est une autre histoire, une autre ambiance, il n'y a pas de souci. Mais on voit tout de suite que dès qu'il l'ouvre, tout le monde tremble, en fait. Hein. Donc, il faut être clair. Je pense que lui, il peut débloquer des trucs. Et puis, si un jour il voit que ça va mal en équipe de France, lui, du jour au lendemain, il peut tout faire péter. Quoi. Donc,
en fait, je vais résumer un truc quand même, Kevin, parce que c'est toujours là. Entre ce que pense l'after et ce que pense Deschamps, il y a toujours une marge. Donc, pour résumer notre demi-heure de discussion, nous, on aimerait bien Maignan et Samba, bon, y aura Areola. Et puis, on aimerait bien Mbappé, il y aura Griezmann, capitaine.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Si j'étais sélectionneur.
Donc en gros, on n'est jamais d'accord avec lui, en fait.
Mais le truc, c'est que Deschamps, avec lui, ça sera toujours pareil. Il va mettre les gars qui vont pas trop faire de bruit non plus, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est son siège, et puis c'est tout. Et en fait, ce qui va l'intéresser, c'est juste quelqu'un qui va lui faire passer le message et en conférence de presse va tenir le truc. De toute façon, on a eu Loris pendant 10 ans bientôt. Donc, Loris était super bien, je veux dire, mais. Et bon, c'est pas les conférences de presse
ça a été un des podiums les plus chiants de l'histoire.
Mais ça a été un des facteurs déterminants pour qu'il puisse le mettre, parce qu'en fin de compte, il disait jamais rien.
Il va dire des trucs à l'intérieur de tout ça. Pourquoi il craigne comme ça le lien avec les journalistes. Je rappelle que le lien avec les journalistes, c'est le lien avec le public quand même. Donc en gros, de quoi ils ont peur, Lionel ? De quoi ils ont peur ?
Qu'il y ait des fuites, qu'il y ait...
Des choses ridicules.
Mais si, il y a tout le temps des choses qu'on se dit dans le vestiaire et qui ne doivent pas sortir, c'est normal.
En général, il n'y a pas grand-chose qui sort.
C'est sûr qu'avec Hugo, ça ne va pas sortir.
Avec Kylian, ça ne sortira pas non plus. Ça, c'est ridicule, à mon avis.
Non, mais c'est... Ah, allô ?
Oui, on t'entend, Kevin.
Excusez-moi. Non, mais moi, je trouve ça catastrophique. Enfin, ça, bon, je dérive un peu, mais Dire, mais moi, je trouve ça catastrophique, quoi. Nous, on est supporters, on est là à regarder tous les matchs, à suivre, je sais pas, quoi. Je veux dire, les mecs, c'est quand même l'équipe de France. Moi, j'ai plein de j'ai un petit cousin et tout. Le mec, il bande là-dessus et tout, sur l'équipe de France. À chaque fois, on parle que de ça. Et les mecs, ils nous racontent, oui, ça va être dur, oui, faut les, pas les mésestimer, oui. Mais ça va, gros, évidemment, mais balancez des petits trucs, quoi. Balancez, mais je sais pas, dites-nous votre passion, racontez-nous des trucs,
Oui, soyez vous-même quoi, tout simplement.
Non, mais moi je suis d'accord avec toi, Gilbert a raison, cette histoire de com, de, qu'il faut contrôler, qu'il y ait plus personne qui va y être naturel et qu'on se rende pas compte d'un truc qui est très simple, c'est effectivement quand on parle aux journalistes, ils le font pas pour nous faire plaisir à nous, nous on s'en fout. En plus nous ici ça fait 15 ans qu'on s'est pas battu pour avoir des invités dans l'émission. D'ailleurs, tout le monde sait, vous le savez, on en a pas des stars qui viennent, des joueurs, on en a peu. C'est pas le problème, mais si on en avait, c'est pas pour qu'il parle à nous, à travers nous, il parle aux gens, il parle à toi. Et comme tu dis, il te raconte une histoire, il te fait un petit peu kiffer, tout ça, tu vois. Il essaye de montrer sa personnalité. Bon, écoute, visiblement, je sais pas, j'ai l'impression que non. Les médias font peur.
Mais non, mais après, la relation entre les deux, aussi, moi qui ai connu les deux, la relation entre les joueurs et les journalistes a beaucoup changé par rapport à notre époque, à la mienne, par exemple, où on avait... j'ai eu Daniel, j'en ai eu plein ici, où tu pouvais parler en off, et t'avais pas, tu vois, t'avais cette connivence. Attends, je te dis ça en off, tu le marques pas, le mec, et puis après, si t'avais un scoop.
Ça existe toujours, Lionel.
Non, ça n'existe plus. Maintenant, le joueur, il parle même plus. Il a peur du journaliste, parce que le joueur, en fin de compte, gère sa propre com via ses réseaux sociaux. Et donc, le problème, c'est que le journaliste aimerait bien avoir cette connivence. Mais le joueur, il veut tellement ne pas y aller qu'en
fait. Je pense que maintenant, il y a des intermédiaires.
Il y a des journalistes qui sont un petit peu.
La problématique, surtout,
limite.
À mon avis, c'est qu'il y a des intermédiaires qui n'existaient pas avant. Toi, avant, tu sortais de l'entraînement, t'allais récupérer ta bagnole, je sais pas, sur le parking, la main courante, il y avait le mec de Lyon Républicaine, il venait discuter avec toi.
Bien sûr.
Ça se faisait comme ça de façon naturelle.
Bien sûr.
Maintenant, t'as le mec qui s'occupe de la com, l'attaché de presse, le type qui s'occupe du réseau social du joueur, l'agent, puis en fait, c'est insupportable.
C'est plus compliqué.
C'est tout.
Mais tu te rappelles, rappelle-toi, Daniel, il y avait souvent, pour expliquer une situation, t'es obligé de parler en off, tu mets dans le contexte, tu dis ça, c'est du off. Maintenant, voilà ce que je peux te dire pour t'expliquer la situation. Et on orientait, et le journaliste orientait sans jamais trahir la pensée du joueur. Parce que il y a des choses, quand tu les lis sur Twitter ou quoi, on ne sait pas tout. On essaie d'extrapoler maintenant. Ouais. Donc, on essaie de chercher la petite bête.
Quel est le off? Benzema,
le journaliste essaie de trouver le off. Mais c'est ça le problème. Et donc, en essayant de trouver le off, il fait du mal, entre guillemets, au joueur, et le joueur se méfie maintenant du journaliste. Il n'y a plus cette connivence qui était primordiale pour moi.
Ah non, mais justement, moi, la connivence, elle ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas être ami avec des joueurs, et je n'ai pas à être ami avec eux pour qu'ils me disent.
Si tu n'es pas ami, tu ne peux pas avoir du off.
Mais Lionel, moi, je veux.
Il y a une question de confiance, Daniel.
Non, moi, je veux qu'il y ait une relation, mais il n'y a pas de confiance ou de pas confiance.
Alors, tu n'auras jamais tout. Tu sauras jamais tout.
Je t'explique. Moi, je veux qu'il y ait juste une relation honnête.
Mais tu sauras jamais.
Je pense qu'on arrive à savoir tellement de choses, justement.
Parce que vous creusez.
Oui, Lionel.
Moi,
le mec qui vient ici, j'ai pas besoin que ce soit mon ami. Il me parle sincèrement, je lui parle sincèrement. C'est tout. Il va parler à travers moi, comme je l'ai dit, au public. Il
raconte ce qu'il aura envie de raconter. Quand je t'entends,
et je
me
le forcerai pas. Et je ne le forcerai pas à venir. Et je lui dirai pas, viens me parler ou quoi ou qu'est-ce. Il y a pas de connivence. La connivence, c'est le mal de notre métier. Et donc, je ne suis pas
être
son ami parce qu'à
partir du moment. Je suis pas d'accord parce que tu vois, si là, je suis en train de me mettre à la place du gars.
C'est pas que tu peux pas être d'accord.
J'ai peur de toi.
Moi,
j'ai peur de toi. À quelle sauce va manger Daniel Riolo, qu'est-ce qu'il va vouloir me faire?
Et toi, tu vas pas m'apprendre mon métier. Tu comprends? Moi, je vais pas t'apprendre à être gardien de but et l'inverse.
Je vais t'expliquer ce que ça veut dire la connivence.
Si moi, je deviens ami avec des joueurs, si le mec fait un mauvais match, je vais pas le dire parce que je veux pas lui faire de mal.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Ah, écoute.
Je suis pas d'accord avec ça. J'ai des copains avec qui j'ai eu du off. Jean-Marie Lanoé, etc.
Tu veux savoir ce que ça veut dire?
Qui m'ont mis quand j'étais mauvais, ça m'est arrivé une fois.
Tu veux savoir les dégâts que ça fait la connivence dans le métier, que ce soit en politique ou dans le foot.
Mais tu te rends compte aussi des dégâts que ça fait quand t'entends nos auditeurs comme Kevin.
Pourquoi?
Des dégâts que ça fait quand les joueurs ne veulent pas venir et ne plus parler aux journalistes. Ça fait aussi des dégâts parce que nos auditeurs, ils n'entendent plus tout ça.
Pourquoi ça ferait des dégâts? Il suffit que le mec.
C'est ce qu'il vient de s'en plaindre. Il a raison.
Mais non, mais vous comprenez pas. Le mec, il vient, le joueur de foot, prend n'importe quel joueur de l'équipe de France, cite-moi un, j'en sais rien. Moi, celui que tu veux, Griezmann. Griezmann, il veut parler. Il vient dans l'after. Il s'assied en face de moi. Je lui pose des questions. Il répond. Je le forcerai pas ni à répondre, ni à pas répondre. Il fait ce qu'il veut. Il donnera sa version de sa vie. Il racontera
comme
sa
une conférence de presse.
Et ben voilà. Et alors, où est le problème, alors?
Bah, comme une conférence de presse.
Qui parle honnêtement, je parle honnêtement. Mais bah, sauf que Griezmann, qu'est-ce qu'il préfère faire? C'est à contrôler sa com. C'est faire quoi?
Non, t'auras de la langue de bois, bah si.
Mais il fait, mais donc il ne sera pas sincère.
Ben non, parce qu'il n'y a pas cette connivence, il n'y a plus tout ça.
Pourquoi veux-tu qu'il y ait de la connivence pour être sincère? Il peut être sincère sans que je sois son ami quand même.
Fin du débat.
C'est quand même incroyable.
Donc on allait faire un tour sur les matchs.
Je sois son ami pour qu'il soit sincère.
Daniel, s'il te plaît.
C'est comme ça. Moi, alors, je t'explique pas ton métier.
Je
t'explique ce que c'est qu'un joueur. Je t'explique ce que pense le joueur.
Allez,
moi, je t'explique pas ton métier. J'ai le droit de penser.
Le point sur le match.
Comme toi, t'as le droit de penser comme
Real Liverpool, Jalot.
18 minutes encore à jouer. Toujours 0-0. 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Ça paraît plus que impossible maintenant. C'était déjà compliqué à la base. 3 buts à remonter pour l'équipe de Liverpool. Alors que Firmino et Elliot, le jeune milieu de terrain, sont rentrés. Grosse occasion encore pour le Real. Même Benzema n'y arrive pas. Beaucoup de gâchis d'un côté comme de l'autre au niveau des occasions. 68e minute. Vinicius qui décale Benzema, qui voit sa frappe, s'envoler, passer au-dessus du cadre. Milner vient de sortir. Alex Oxlade-Chamberlain vient de rentrer.
Naples-Francfort, Aurélien.
Ouais, la Messe est dite aussi, 3-0 pour les Napolitains, 17 minutes encore à jouer. Donc on se dirige très clairement vers la première qualification de l'histoire en quart de finale pour le Napoli.
Magnifique. Hein.
Ouais. Et du côté allemand, mine de rien, après le 0-7 de Leipzig, après l'élimination de Dortmund, Francfort qui se fait fesser aussi par Naples en 8e de finale, ça fait du mal aussi. Donc 3-0 pour les Italiens, 16 minutes désormais dans le temps réglementaire et on fait tourner. Sortie de Kim In-jae, sortie de Politano, de Gvarad Srelia notamment.
Je remercie Kevin le 32-16. Dans un instant, le débat continue. On va parler de l'UEFA et de ses décisions du jour.
Parce que je vais raconter un truc à Lionel qui intéressera tout le monde.
On le fait juste après la pub. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
22h36. Daniel Riolo est là. Lionel Charbonnier est là. Tout à l'heure à 23h. Analyse du plateau des quarts finales de Ligue des Champions avec les drôles de dames. Mais d'abord, un petit point score. Ça n'a pas bougé entre le Real et Liverpool, Jeannot.
Non, il reste encore 13 minutes à jouer. Toujours 0-0. 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et toujours ce manque de tranchant de la part des Reds de Liverpool. Et quelle belle gestion du résultat tout en étant dangereux, en ayant des occasions de la part du Real Madrid de Carlo Ancelotti.
Naples-Francfort, Aurélien.
Et la démonstration sifflotant des Napolitains. Toujours 3-0 à 12 minutes de la fin du match. Doublé de Victor Osimhen, penalty du Polonais Piotr Zieliński. 5-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Avant de parler de l'UEFA et de ses décisions du jour, Daniel, on termine le débat autour de la médiatisation des Bleus.
Oui, enfin, c'était pas tant la médiatisation des Bleus. C'est l'idée que Lionel pense que c'est en étant. But de Benzema.
Mais non.
Ouais, si, il a marqué.
Et pas hors jeu.
Jalot.
Ouais, le but de Karim Benzema qui s'est fait mal au passage. 78e minute avec ce ballon transmis par Vinicius. Ils ont fini par se trouver, ces deux-là. Ça n'a pas été simple. Et là, c'est Konaté qui est au marquage et qui attrape la jambe de Benzema. Mais il avait déjà frappé au but et donc permet à cette équipe du Real Madrid finalement d'être récompensé, ce que je disais à l'instant, dans sa gestion du match, tout en ayant des occasions de but.
Ils ont joué.
342e but sous le maillot du Real Madrid pour Benzema. C'est un ballon de Camavinga au départ de l'action. Benzema est dans l'axe, il ne peut pas se débarrasser de Van Dijk et c'est Vinicius, qui c'est pas le Lillois, c'est le joueur du Real Madrid qui est venu glisser sur le tacle derrière et pour mettre ce ballon du bout du pied à Karim Benzema qui d'ailleurs au premier contact avec c'est pas Konaté avec Van Dijk.
Ouais, c'est marrant, au début on n'a pas l'impression qu'il se fait mal et puis d'un coup après il a mal.
Ouais, il s'arrête dans sa course pour aller
bien grave.
Célébrer ce but. Les espoirs de Liverpool étaient déjà bien entamés. Là, c'est terminé. Au moins, on a évité le 0-0.
Camavinga était très bon, Jeannot, non?
Ah, il a été plutôt intéressant. Ouais. Il a perdu très peu de ballons. Fred Hermel avait des craintes au début du match en disant oui par rapport au match aller,
il n'y aura pas 0-0.
Pardon ?
Non, par rapport à Fred, là, vu qu'il avait dit que 0-0, il arrêtait.
Non, mais il avait des craintes surtout par rapport au fait qu'il n'avait pas été bon au match aller et qu'il aurait préféré voir Tchouaméni, mais Tchouaméni est un petit peu plus en difficulté. Voilà, il se fait soigner au mollet Benzema. Mais il a été plutôt bon et plutôt régulier dans la récupération du ballon, dans la relance et dans ce genre de passe. Ça a été la troisième ou quatrième.
Il est décisif sur le but encore.
Il a délivré, ouais, tout à fait.
Bon, alors, Daniel.
Oui, j'ai essayé de faire comprendre et aussi à ceux qui nous écoutent en quoi cette relation trop proche avec le monde d'en face pouvait être finalement préjudiciable tout simplement à l'information. Déjà, tu as par exemple l'exemple qu'il y a eu au PSG et qu'il y a encore d'ailleurs avec tout la direction de la communication qui cherche à contrôler toute la com par le biais de ses comptes sur les réseaux sociaux où de temps en temps il leur donne, comme on donne du pain au canard, deux trois petites informations pour que les mecs disent du bien des joueurs et ensuite ils vont faire croire qu'ils ont des informations. Toi, tous les comptes, je sais pas si tu les vois sur Twitter, tous ces comptes de supporters qui ont pas mal de followers maintenant
et qui au fond l'autre fois
et qui au fond disent du bien
tes tweets passés en
finissent même parfois par nouer des relations avec les joueurs, mais qui finalement ne vont être là que pour en dire du bien, que pour être des supporters au final. Et ça, tu l'as également
du bien ou du mal.
Non,
s'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils peuvent aussi détruire un joueur.
Ça c'est pour le cas de l'armée numérique, effectivement, ça a été vrai, tu fais bien de le dire. Mais tu as eu tous les exemples de gars qui deviennent potes avec le gars qui suit le club pendant des années et qui lui met en permanence la bonne note. Tu as par exemple le cas aujourd'hui, il y a un mec qui avait des infos sur l'OM au début des années 2010. Il y a un mec qui avait des infos. Aujourd'hui, il est attaché de presse de l'équipe de France. Parce que Deschamps était à l'époque entraîneur à l'OM.
Je le connais très bien.
Ouais, mais c'est la plaie de notre métier, ça. Ça, c'est parce que tu t'es obligé de te dire que pendant des années, quand il suivait l'OM et que Deschamps en était l'entraîneur, les infos que tu lisais dans le journal, elles étaient télécommandées, elles étaient téléguidées. Donc, c'est ça que tu découvres, en fait, quand les mecs ensuite vont dans les clubs pour bosser. Bah, c'est absolument pas normal. Et l'anecdote, je vais t'en raconter très, très simplement. Récemment, bon, tout le monde sait que je disais pas mal de bien de Valentin Rongier. Mais je le dis parce que je le pense et parce que c'est sincère. Et il est venu dans l'after il n'y a pas très longtemps. Et avant qu'il vienne, on a échangé 2-3 messages. Et dans un des messages, il me dit « Ah, merci, c'est gentil tout ce que tu dis, machin. » Qu'est-ce que je lui ai répondu ? Je lui ai dit « Mais Valentin me dit surtout pas merci. » Il n'y a pas à me dire, si je dis du bien de toi, c'est parce que je le pense sincèrement. Parce que je trouve que tu es un bon joueur. Et quand tu feras un mauvais match ou quand tu seras moins bon ou quoi, je le dirai de la même façon. Je trouve que c'est un type super. Alors qu'on ne se connaît pas, on n'a pas mangé ensemble, je ne l'ai même jamais vu, on n'est pas amis, on ne se connaît pas. Je trouve que ça a l'air d'être un type super, je trouve que c'est un bon joueur sur le terrain. Il s'est imposé à l'OM, il en est devenu le capitaine. J'en dis du bien. Il vient dans l'émission. Mais il fait un mauvais match, je dirais qu'un mauvais match. Alors que si je lui envoie des messages, si machin, ah vas-y, file-moi des infos. Ou non, enfin tu vois, c'est.
Alors,
c'est
juste pour te répondre. On peut pas, mais un contre-exemple qui va te très bien te parler, l'affaire Benzema avec Didier Deschamps pendant la Coupe du Monde. Si la com, peut-être qu'il y a clash entre les deux. Il y a sûrement clash, on ne sait pas. Mais
Je sais, ce sera dans mon livre qui sort au mois d'avril.
Voilà. Donc, si c'est pas maîtrisé, est-ce que l'équipe de France, à ce moment-là de la compétition, juste avant la compétition, a besoin et le monde entier a besoin d'entendre qu'il y a y avoir un clash entre.
Non, mais Lionel, moi, j'ai pas dit ça, attention.
Mais voilà, mais ça, c'est maîtrisé. Mais là,
d'accord.
Voilà, une com maîtrisée.
Non, mais eux, ils font leur métier, nous, on fait le nôtre. J'ai aucun problème avec ça.
C'est ce que je te disais par rapport aux joueurs.
Alors, je t'ai pas compris.
Pardon. C'est ce que je te disais
parce que je ne veux pas.
T'as besoin de maîtrise et que les joueurs aussi.
Non, moi, ce que je ne veux pas, c'est que cette maîtrise, elle aille jusqu'à quoi? Que dans les conférences de presse de l'équipe de France.
Parce qu'on envoie le mec qui a la meilleure langue de bois.
Voilà.
C'est ça.
Non, Lionel.
Oui, mais voilà, là, il y a pas une langue de bois, il n'y en a pas eu du tout.
Moi, ce que je ne veux pas, c'est que la communication maîtrisée des Bleus, de Deschamps et de son laquais, ça devienne un contrôle. Le contrôle de la presse. Et c'est-à-dire que dans les conférences de presse, on ne passe le micro, tu sais, comme fait Trump dans ses conférences de presse, il ne passe le micro qu'aux journalistes qui sont amis. Et le mec.
Oui, non, alors ça, non.
Non, mais.
Non, non, ça
non, non.
Mais je suis pas d'accord avec ça, ouais.
Mais c'est exactement ce qui se passe.
Juste en équipe de France, hein.
C'est en équipe de France, va demander, et Jeannot, malheureusement, peut en témoigner, et à mon avis, il doit lui arriver très souvent de pas être, de
pas trouver que je sois. Ce n'est pas que ça.
Laisse-moi terminer, je te raconte. Le mec d'RMC qui va dans la conférence de l'équipe de France. bah souvent il est très emmerdé à cause de ce qu'on dit nous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le micro il arrive pas jusqu'au journaliste d'RMC parce que Didier Deschamps et son laquais disent non, les mecs d'RMC ils posent que des mauvaises questions. D'ailleurs, rappelle-toi, ça avait fait une séquence marrante dont on a fait un jingle. Ah oui, c'est encore les mecs d'RMC, c'est les gars d'RMC, c'est toujours les gars d'RMC.
Parce que Deschamps, ça c'est qu'il a eu
le micro. Deschamps, tout ce qu'il veut lui, c'est faire de tous les journalistes des larbins. Bon, est-ce que c'est normal? Donc il est normal que nous, face à ça, ben on essaye de dire ce qu'on sait. Tu vois, quand ça arrive en politique, ça fait des scandales. Pourquoi dans le foot on accepterait ça?
Je confirme, c'est arrivé, ça s'est arrangé au moment de la Coupe du Monde et ça va beaucoup mieux maintenant.
Après ce que j'ai dit,
Écoute, on verra, je te dirai ça. Et pourquoi ça va
mieux, Jeannot? T'as changé ton attitude?
Non, pas du tout, parce que Jeannot il est sur le terrain et que sur le terrain, en revanche, quand t'es sur le terrain, tu dois être habile, tu dois être une sorte de diplomate.
Et ça, je confirme, parce que parfois, c'est vrai que
nous, notre liberté, on la doit aussi à nos reporters sur le terrain.
Bon, les gars, je voulais juste, sur l'équipe de France, pour conclure, vous faire réagir quand même à quelque chose. Jérôme Rotten, tout à l'heure dans son émission, a poussé un gros coup de gueule parce qu'il estime que Giroud n'a plus rien à faire en équipe de France, trop vieux, que la relève est là.
Qui dit qu'il a pas... C'était avant déjà le mondial, il fallait pas qu'il revienne.
La tendance, c'est quand même qu'il soit appelé. Puis Giroud, on peut pas dire qu'il soit mauvais, excusez-moi.
Jérôme, il continue à marquer avec Milan.
Vous êtes d'accord avec Jérôme Rotten?
Pas du tout. J'avais déjà eu un clash avec Jérôme dans son émission par rapport à ça. J'avais dit Jérôme, parce que lui disait que c'était fini, que Giroud n'avait plus rien à faire en équipe de France. J'ai dit attends, t'es pas à l'abri que Benzema se blesse pas et que Giroud soit très bon avec le Milan AC. Je te le donne 1000.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé.
Tu lui donnes en 1000 ou tu donnes 1000?
Je le donne 1000. Non, je regarde Gilbert, 1000. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas, déjà, il n'a pas dit qu'il voulait arrêter l'équipe de France.
Oui, il a réfléchi tout ça, puis après, au final, il a dit, je continue.
Donc, voilà. Je continue à partir du moment où le sélectionneur veut bien m'appeler. Il fait ses performances. S'il est performant, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas appelé? Je ne comprends pas.
Moi, je vais essayer. Je vais essayer de faire l'avocat de Jérôme. Moi, Giroud, jusqu'à la Coupe du Monde, à 100%, fallait qu'il y soit. Aucun problème. En plus, il venait de faire une belle saison. J'ai toujours défendu Giroud. Ses performances parlent pour lui. En équipe de France, il est nickel. Là où je vais me faire l'avocat de Jérôme, c'est sur un élément qui est très simple. C'est l'âge de Giroud. Ce qui ne remet pas en cause ses performances actuelles. Il continue à marquer. Il est bon. C'est juste que je me dis, la prochaine échéance importante, c'est l'Euro. Donc, dans un an et quelques mois. On est d'accord ?
Juin 2024.
Voilà. Si tu dois
préparer... Donc, tu mets qui ?
J'arrive. Si tu dois préparer ton équipe pour cette échéance-là, avec les qualifs qui arrivent, j'aimerais qu'au moment où on va démarrer la compétition en 2024, le gars qui sera à côté d'Mbappé, il ait joué beaucoup avec lui, il soit installé, il soit en confiance, avec l'idée que il est l'attaquant des Bleus. Si Giroud est plus jeune, je me dis aucun problème. Il sera encore bon. Même quand il jouait pas, qu'il n'était pas titulaire, il a un tel mental que ce gars-là, tu sais que tu peux compter sur lui. En fait, c'est pas que j'écarte Giroud, que je continue à beaucoup aimer. C'est juste que je me dis, comme une sorte de pari envers moi-même, je me dis, il a 36 ans. Est-ce que dans un an et demi, il ne sera pas rattrapé par l'âge, auquel cas il peut plus être performant et j'ai perdu du temps pour installer mon nouveau neuf.
Alors, moi je te réponds.
Tu comprends? Ça se défend, cette idée, elle se défend.
Elle se défend. Maintenant, le problème, tu perds Lloris, tu perds Varane, tu perds tous tes leaders, les uns après les autres. Giroud fait partie des cadres. Lorsque tu veux perpétuer quelque chose, la culture de la gagne, et cette équipe, Dieu sait quand même si elle a gagné, elle a failli remporter 2 étoiles en très peu de temps. Donc, si tu veux perpétuer cette culture de la gagne, et que tu veux mettre un jeune, un nouveau en devenir, t'es obligé aussi de l'incorporer avec des mecs qui ont cette culture de la gagne. Il y en a un qui a essayé de passer outre ça. C'est Domenech. Raymond, il a dit, toutes les sorcières de 98, vous dégagez. Moi, je ramène que des jeunes. Ils sont plantés complètement. Il a révisé sa copie, il a rappelé Tutu, il a rappelé tout ça, il a rappelé des cadres pour remettre des jeunes.
Là, tu garderais quand même pas mal de mecs qui viennent de vivre une très belle aventure.
Tu ne fais pas des cadres. Giroud, c'est un cadre. Là, en cadre, tu vas garder Griezmann, tu vas garder Kylian.
Tu dis que c'est pas assez.
c'est pas assez. Donc, au moins, rappeler Giroud, ça veut pas dire que tu vas le faire jouer titulaire, mais t'as besoin de cadre. Gamin,
allez, temps, il va jouer titulaire. Donc, la solution serait entre toi et Jérôme, c'est-à-dire de, tu le gardes, parce qu'effectivement,
pour
il encadre.
Le passage
et il montre,
de témoin.
Il montre l'exemple, notamment.
Exactement.
Et à la limite, et à la limite, t'es pas obligé de le faire jouer tout le temps, et t'installes un mec que tu fais rentrer de plus en plus souvent, à qui tu donnes toujours plus de temps de jeu,
mais
un Kolo Muani.
Ta famille, ça va se passer comme ça.
Okay, je suis d'accord.
Ce que t'apprends à tes enfants, tes enfants vont l'apprendre à leurs enfants.
Non, mais je pense qu'il y a une solution à trouver entre les deux et de pas se priver de tous les cadres d'un coup, c'est vrai.
Allez, dans l'UEFA et la fin des matchs, les scores n'ont pas bougé, juste le score et le temps qui reste entre le Real et Liverpool. Jano,
on est dans les dernières secondes avant de connaître le temps additionnel. 1-0 pour le Real, le but de Benzema à la 78e minute, 6-2 sur l'ensemble des deux matchs.
T'as pas dit qui tu voulais capitaine des Bleus, toi?
Moi, je pense que Griezmann sera un très bon capitaine.
Très bien.
Aurélien, Naples-Francfort.
90 secondes encore dans le temps additionnel. Naples va vivre son premier quart de finale 3-0 dans ce match au stade Maradona.
À tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
22h50, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là. Les scores n'ont pas bougé dans les matchs de Ligue des Champions. On tourne sur place dans quelques secondes. Juste après le coup de sifflet final, l'UEFA. Les gars, Daniel, je sais que tu veux en parler. Aujourd'hui, c'est
Férine. Il va pas y avoir pénon, là ?
Où ça ?
Ah non, parce que ça a touché l'autre partie du corps avant et tout, là.
À Madrid ?
Ouais.
Bon,
façon, Kimikas, qui vient de rentrer à la place de Robertson, qui s'est trouvé sur la trajectoire du ballon. Je sais pas si on peut considérer que c'est pas un geste naturel parce qu'il est dans le déséquilibre, il contre la cuisse.
Et puis ça touche le corps avant.
Et après, d'abord la cuisse et ensuite le bras. Donc, c'est vérifié.
Mais bon, t'as vu les pénaux qui ont été sifflés, Jeannot?
Oui, je suis d'accord avec toi. On est dans le temps additionnel. C'est vérifié. Et quand ça vérifie, ça discute dans l'oreillette. Et s'il y a un doute, on va voir l'écran, comme ça a été le cas hier soir. Est-ce qu'il y a un doute ou pas? En tout cas, pour l'instant, ça discute.
Dans le doute, tu t'abstiens, hein, comme disait Michel Vautreau.
Ça peut arriver, effectivement. Tsimikas qui vient de rentrer à peine, sur ce premier ballon, qui voit d'abord la cuisse et ensuite
la balle a tapé la cuisse avant. Ouais, hein.
Exactement. Donc, ça discute toujours pour le
Et la main n'empêche pas le ballon de rentrer dans le but non plus. Il y a pas
c'est fini à Naples pendant ce temps-là, Aurélien.
Le geste est latéral,
Et la bande à Gvard, Strelia, en quart de finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-0 ce soir. Doublé de Victor Osimhen, un pénalty de Piotr Zielinski. Victoire hyper tranquille contre Francfort. Autant à l'aller qu'au retour. Il n'y a même pas de diffusion de joie plus que ça, tellement les Napolitains sont habitués à gagner cette saison. Large leader de Serie A, 18 points d'avance sur l'Inter. Et donc, pour la première fois de son histoire, le Napoli rejoint les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Il y a un doute. L'arbitre va aller voir les images, même si ça fait rigoler Klopp, qui dit on est dans la dernière seconde, le temps additionnel est dépassé.
C'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout,
qu'il y a 6-2 sur l'ensemble des deux matchs, mais bon, l'image est arrêtée sur le moment où le ballon arrive au bras. D'abord, il touche la cuisse droite et ensuite, il vient toucher le bras. Il y a le mouvement du bras quand même qui va du haut vers le bas et qui
fait qu'il rencontre le ballon.
Il y a possibilité de voir l'arbitre revenir, Félix Zaïre, et indiquer peut-être le point de pénalty. En tout cas, il n'en prendra pas du tout cette décision. Il en reste là, il reste là-dessus. Il n'y aura pas de pénalty, et donc du coup, il va siffler certainement à la fin du match. Et la qualification du Real Madrid va être estampillée.
Dans quelques instants, sans doute.
Ouais, mais on a dépassé le temps additionnel de 2 minutes. Ils continuent à mettre des cartons jaunes. Donc Naples qualifié, on s'y attendait. Le Real va être qualifié, on s'y attendait un petit peu. On aurait espéré, on va dire, un petit peu plus d'envie de la part des joueurs de Liverpool. Bah, c'est encore le grec.
Mais je crois
Tsimikas.
Qu'ils peuvent plus. Hein, Liverpool, c'est vraiment une équipe qui est dans une saison noire. Hein.
Ils ont bien fini la première mi-temps, Jeannot. Il y a eu deux trois arrêts de Courtois. Après,
ils ont eu des situations. Hein. C'est clair.
Finition, ils sont pas bons.
Ils ont eu
moment.
Des situations et c'est fini. C'est terminé. Qualification du Real Madrid avec la victoire au match retour. 1-0, but de Karim Benzema, son troisième en Ligue des Champions. Il en avait mis deux. Ses deux premiers de la saison en Ligue des Champions, c'était lors du match aller. Le Real rejoint donc Naples en quart de finale de la Ligue des Champions.
Bonne soirée les gars. Donc, on va en parler dans quelques instants avec les drôles de dames. Nous aurons donc 3 clubs italiens, 2 clubs anglais, un portugais, un espagnol, un allemand en quart de finale. L'UEFA, Seferin, 2 choses aujourd'hui. Alors, il y a une chose qui résonne très négativement parce qu'il a expliqué ce mardi qu'il sanctionnerait les clubs et les villes refusant d'accueillir les supporters des équipes adverses. Alors, il dit ça le jour où il y a eu des gros problèmes à Naples entre supporters de Francfort.
C'est lui qui gère la police.
Bah apparemment, il dit c'est intolérable.
C'est lui qui gère la police.
Alors les clubs ne joueront pas.
Et qui gère comment on accueille les supporters. On lui rappelle ce qui s'est passé au Stade de France. L'UEFA a été reconnu en partie responsable de ce qui s'est passé aussi.
Non, bah aujourd'hui à Naples, donc, t'as vu les problèmes qu'il y a eu, bagarre entre
évidemment, supporters. J'ai également vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Naples. Donc sorti, mais totalement hors de propos de Seferin. Vraiment là, c'est inadmissible ce qu'il dit.
Et puis alors l'autre truc,
c'est fou, ces patrons, la UEFA, FIFA, qui veulent gérer les pays et qui se prennent pour des chefs d'État ou qui veulent s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Mais pour qui se prennent-ils, quoi, en fait? Qui s'occupe de gérer ces compétitions déjà?
Et puis alors autre truc très étonnant, Seferin réfléchit à modifier la réglementation concernant la multipropriété. Donc, et bon, vous savez que pour l'instant, il est impossible, par exemple, pour deux clubs appartenant au même propriétaire, de participer à la même Coupe d'Europe. Ce qui semble évident pour un problème éthique, de conflit d'intérêts et tout. Et il dit, mais en fait, il y a de plus en plus d'intérêts à la multipropriété. Donc, vous savez qu'il y a des grands groupes qui se forment, Citigroup, là on voit que QSI, les Qataris s'intéressent à Malaga, bref. Donc, il dit, on ne peut pas dire non aux investisseurs en cas de multipropriété. Donc, ben, en gros, on prend l'oseille et puis on va s'arranger avec le règlement et puis on va permettre que ça se fasse. Quoi. Voilà. Et il dit, attention, je précise qu'on ne pense pas seulement à Manchester United, puisque Manchester United pourrait être racheté par les Qataris, précise Seferin. Enfin, c'est quand même incroyable.
Il a bien fait de préciser ça, parce qu'au cas où on aurait eu des mauvaises idées.
Non, mais ouvrir la porte à un truc comme ça, le mec est avocat quand même. Comment c'est possible?
Je sais pas, c'est un délire que je ne m'explique pas. Alors évidemment, tout le monde sait qu'on a le précédent RB Leipzig et Salzbourg. Qui avait fait beaucoup parler sans faire scandale parce que on parlait de deux équipes qui n'étaient pas des gros clubs, notamment Salzbourg, qu'on ne voyait jamais comme un acteur majeur possible de la Ligue des Champions. Leipzig l'est devenu petit à petit parce qu'ils ont quand même fait une demi-finale et ils sont toujours maintenant, en tout cas, un client sérieux, un huitième de finale potentiel, un huitième de finaliste pardon potentiel régulier dans cette compétition. Je pense que le pédigré de ces deux clubs-là a fait que on n'a pas parlé de scandale, alors que c'était déjà anormal et qu'on a trouvé un subterfuge
après,
juridique.
Ils ont été rattrapés par les bons résultats de Salzbourg par rapport à.
Voilà, donc petit
à petit. Ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient plus à une équipe B.
C'est pour ça que ça n'avait pas fait scandale, parce qu'on s'était dit ça va être une sorte de club, un club un peu filial. Bon après ça c'est pas. Il y a pas eu d'affrontement entre les deux, il y a pas eu de choses qui ont pu faire discuter. Ouais. Et je le répète, comme c'est des clubs à notoriété réduite, on a mis ça un petit peu sous le tapis en se disant ça n'ira pas plus loin. Mais on avait commencé à ouvrir la porte, mine de rien, porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Et je crois pour justifier ça, il y avait un subterfuge économique ou politique un peu bidon. C'était pas exactement le même propriétaire. Enfin bon, bref, ils nous ont fait avaler la pilule. Là, c'est carrément annoncé, vraiment. Et ça tombe au moment où, comme par hasard, le PSG, mais le Qatar s'intéresse au rachat de Manchester United. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions de club. Et on se dit, mais quelle est la limite? Pourquoi pas deux, trois, ou pourquoi pas des grands groupes qui ont chacun deux, trois clubs et ça devient des armées les uns contre les autres. Là, ça y est, on se met à jouer au risque, là, comme le jeu de société, là.
Ah ouais?
C'est une aberration.
Non, les compétitions,
c'est une aberration absolue. Parce que tout ce que tu peux imaginer de clubs qui se retrouvent en même phase de poule, avec l'autre qui a besoin de points pour se qualifier,
bien sûr.
C'est les mêmes propriétaires, sachant que tu dois faire rentrer l'oseille, des transferts, des accords sur des transferts. Enfin, je ne comprends même pas. Enfin, je pense qu'il n'y a
Ou alors, on ajoutera un truc, c'est quand tu fais les tirages au sort. Là, tu avais les trucs par nation et tout.
Ah oui.
Là, tu diras, ben non, lui, on ne peut pas le mettre parce qu'il est déjà, il est apparti au même propriétaire que l'autre.
Donc, on va le mettre dans un groupe différent. Et puis, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas se croiser en huitième. Ouais. Non, mais je ne sais pas si on mesure ce que signifie.
La fin, t'auras plus de tirage au sort.
La sortie.
Tu seras obligé de te rencontrer.
Le scandale Seferin, de la sortie de Seferin.
Seferin, il donne du grain à moudre à la Super League hein, en faisant ça. Hein.
Et Seferin qui, ouais, effectivement, est dans un moment où la Super League mène une offensive, et Florentino Pérez notamment, on sait qu'il veut augmenter les revenus de certains clubs, on sait qu'il est dans la main du Qatar, exactement comme la FIFA, les aussi. Ils ont fait sauter le fair play financier pour faire plaisir à Nasser Al-Khelaifi.
Donc, tu sais pourquoi il est d'accord avec ça.
Et à City. Oui, mais honnêtement, quand j'ai vu ça, alors que depuis pas mal de temps maintenant, on parle très souvent, on est un peu à la pointe sur le sujet de la Super League et que la nouvelle formule qui est en train d'être préparée d'une Super League ouverte et plus qu'ouverte, surtout avec un contrôle, pour que ce genre de choses ne soit pas possible, pour que les excès financiers ne soient plus possibles, pour qu'on mette du contrôle dedans. Mais aujourd'hui, un supporter de foot, et là, moi, j'ai très envie d'entendre, puisqu'ils vont arriver, là, nos amis de l'étranger, j'ai très envie de les entendre là-dessus, parce que si aujourd'hui, il y en a encore un qui peut défendre l'UEFA, qui peut défendre Seferin, déjà que sa formule, réforme de 2024, là, la Ligue des Champions, elle est bonne à mettre à la poubelle, c'est une catastrophe. Mais si derrière, cette histoire de multipropriété, tout le monde ne trouve pas ça scandaleux, là, moi, je ne comprends plus rien. Je suis aujourd'hui fervent partisan d'une compétition supranationale avec un contrôle financier, un contrôle de qui participe à la compétition et une compétition ouverte. Je veux qu'elle arrive, je suis dans le camp de Florentino Pérez et de ceux qui veulent cette compétition. L'UEFA a perdu toute crédibilité aujourd'hui, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Quant à la FIFA, alors là, la FIFA, c'est terminé, quoi.
Dans un instant, les drôles de l'âme pour continuer le débat et parler du tableau des cartes finales de la Ligue des Champions avant les affaires d'espionnage en Suisse. Messieurs, dames, d'ici minuit dans l'after, on se retrouve très vite.